La tâche d'une critique de la violence peut se définir en disant qu'elle doit décrire la relation de la violence au droit et à la justice. Walter Benjamin. Critique de la violence de Walter Benjamin. Fragments et feedback. Une proposition radiophonique d'Alpha Béville sur les ondes de Radio Grenouille dans le cadre du cycle de la guerre et de la paix. À partir d'une lecture par Liliane Giraudon, Suzanne Joubert, Aglaïa Moucha, Colette Tron, Marie Bassière, à Montevideo, le mercredi 13 avril 2016. Commentaires et entretiens avec Liliane Giraudon, écrivain, Nathalie Quintane, écrivain, Sylvain Georges, auteur et réalisateur, Amandine André, écrivain, Franck Hansel, artiste et théoricien. Dans sa critique de la violence, 1921, le philosophe Walter Benjamin interrogeait les états, formes, moyens et fins de la violence à l'endroit des rapports moraux. La violence se justifie-t-elle? Qu'est-ce qui l'autorise? Comment se manifeste-t-elle? Est-il d'une façon générale possible de liquider les conflits sans recourir à la violence? Critique de la violence de Walter Benjamin. Fragments et feedback. Deuxième épisode. Nathalie Quintane.
Le droit considère la violence entre les mains des personnes individuelles comme un danger risquant de miner l'ordre juridique, comme un danger risquant de faire échouer les fins légales et les pouvoirs exécutifs d'ordre juridique? Non, tout de même pas. Car en ce cas, ce n'est pas la violence elle-même qu'on condamnerait, mais seulement celle qui est appliquée à des fins illégitimes. On dira qu'un système de fins légales ne pourrait pas se conserver s'il était encore possible, dans un domaine quelconque, de viser des fins naturelles au moyen de la violence. Mais ce n'est là, dans un premier temps, qu'une affirmation purement dogmatique. Contre elle, il faudra peut-être prendre en considération la surprenante possibilité que l'intérêt du droit a monopolisé la violence en l'interdisant à l'individu ne s'explique point par l'intention de protéger les fins légales, mais bien plutôt par celle de protéger le droit lui-même. Que la violence, lorsqu'elle ne se trouve pas entre les mains du droit chaque fois établi, ne constitue pas une menace pour lui par les fins auxquelles elle peut viser, mais bien par sa simple existence hors du droit. On trouve de cette hypothèse une confirmation plus éclatante si l'on songe que très souvent, la figure du grand criminel, si répugnante qu'aient pu être ses fins, a provoqué la secrète admiration du peuple. Ce ne pouvait être pour son acte, mais seulement pour la violence dont il témoigne. En ce cas, par conséquent, c'est un fait que la violence que le droit actuel dans tous les domaines de l'action tente de soustraire à l'individu constitue encore une menace et, même vaincue, continue d'éveiller la sympathie de la foule à l'encontre du droit. Par quelle fonction la violence peut sembler avec raison si menaçante pour le droit, peut être à tel point crainte de lui? C'est ce qui doit précisément se révéler là où l'ordre juridique actuel en autorise lui-même encore le développement.
Oh. On dira qu'un système de fin légale ne pourrait pas se conserver s'il était encore possible, dans un domaine quelconque, de viser des fins naturelles au moyen de la violence. Mais ce n'est là, dans un premier temps, qu'une affirmation purement dogmatique. Alors après, contre elle, contre cette affirmation dogmatique, il faudra peut-être prendre en considération la surprenante possibilité que l'intérêt du droit à monopoliser la violence, en l'interdisant à l'individu, ne s'explique point par l'intention de protéger les fins légales, mais bien plutôt par celle de protéger le droit lui-même. Que la violence, lorsqu'elle ne se trouve pas entre les mains du droit chaque fois établi, ne constitue pas une menace pour lui par les fins auxquelles elle peut viser, mais bien par sa simple existence hors du droit. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un passage intéressant. Parce que du coup, là, je vais faire de la paraphrase, et je ne sais pas comment m'en sortir en dehors de faire de la paraphrase, là. C'est que, on va dire que l'État, puisque derrière, quand j'ai l'impression que en allemand, quand il parle de violence, derrière, se profile toujours la silhouette de l'État. C'est pas... Il y a deux violences, il y a plusieurs violences, et il y a aussi la violence de l'État, la Staatsgewalt, à un moment, il dit ça. Donc c'est la violence monopolisée ou légitimée, enfin, ou dans le camp de l'État, quoi, dans le camp du pouvoir. Et donc, ce qu'il dit, c'est que cette violence-là, en gros, l'État n'en a rien à faire qu'elle produise des fins légales, illégales ou je ne sais pas quoi, c'est que ça se produise en dehors de son champ à lui, quoi, en bordure ou à la frontière ou même dans la zone, derrière. Et donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant par rapport à l'espèce de, peut-être, de décomposition de parlementaire de l'époque à laquelle le texte a été écrit, puisqu'il a été écrit en 21, et qu'il écrit avec ça en arrière-plan. Et par rapport à ce qu'on sent, nous, alors c'est difficile de... on peut en discuter longtemps, mais... Même si on sent sans doute pas un état de fragilité, de décomposition, d'incertitude aujourd'hui à la tête de l'État, quoique, on pressent quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où on a beaucoup de mal à évaluer, disons comme à l'hôpital, hein, sur une échelle de 0 à 10, on a beaucoup de mal, en tout cas moi j'ai du mal à évaluer le degré de faiblesse ou de faiblesse maquillée par la répression, par la force du gouvernement actuellement en place, par exemple, qui est le gouvernement socialiste. Est-ce qu'ils sont à mi-chemin, à 5, et que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre? Est-ce que déjà ils se sentent tellement en position de faiblesse qu'ils sont plutôt entre 0 et 5 et que c'est pour ça qu'ils envoient à ce point-là, qu'ils gazent, on a l'impression qu'ils vont gazer Paris entier de manière à faire disparaître tout ça. J'ai reçu, je dis ça parce que je fais une aparté, j'ai reçu une photo de l'Assemblée nationale qui avait disparu derrière les gaz lacrymogènes, totalement disparu. Il restait vaguement le sommet de l'édifice. C'était au moment, le mardi, hein, où la discussion sur la loi, c'était pas le 49-3, je crois pas. Si, peut-être. Et il y avait les manifestants qui étaient devant, et évidemment, les CRS avaient tellement gazé l'entrée, hein, devant l'Assemblée nationale qu'on ne voyait plus l'Assemblée nationale. Donc, je sais pas, il y a un truc comme ça, de non-maîtrise, en fait, de ce qui se passe, faisant disparaître tout ça, puisque on peut pas s'en sortir autrement pour le moment.
Que disparaisse la conscience de cette présence latente de la violence dans une institution juridique, cette dernière alors périclite. Les parlements, aujourd'hui, en donnent un exemple. Ils présentent le déplorable spectacle qu'on connaît parce qu'ils ont perdu conscience des forces révolutionnaires auxquelles ils doivent d'exister.
Le problème là, c'est que notre difficulté, c'est qu'on est dans une durée longue, c'est que c'est pas simplement un oubli de 10 ans. On a l'impression que c'est un oubli ancré depuis à minima 30 ans, en tout cas 40 ans. depuis 68. C'est-à-dire que je crois que la difficulté, c'est que quand ça oublie, mais pas seulement du côté de l'État, je crois que tout le monde oublie, en fait, ça. Visiblement, hein, enfin, la plupart des gens oublient que ce qui a été conquis d'abord et a été conquis de haute lutte, avec des morts, avec des emprisonnements, etc. Ça, la plupart des gens soit l'oublient naïvement, soit feignent de l'oublier pour ne pas s'embêter avec ça, quoi. Et donc c'est pas seulement l'État qui entretient l'oubli, c'est tout le monde qui consent à cet oubli. Hein. Je crois qu'il y a, c'est Philippe Roux qui m'a rappelé ça, qui s'occupe de la revue des Générations. Il y a un texte de Pasolini qui parle des humbles corrompus. Alors, les humbles corrompus, c'est en gros la classe moyenne. Évidemment, c'est un drôle de presque de d'oxymore. On s'imagine qu'étant humble ou étant dans une forme de moyenneté dans la position sociale, on ne peut pas être réellement corrompu. Peut-être que la corruption dont il est question, c'est ça. C'est pour cette tranquillité dans laquelle on relative, évidemment. Voilà, on est en train d'apprendre à nos dépens qu'elle est relative. Mais je pense qu'on a oublié, moi je crois mes parents, on a oublié pendant une durée de temps assez longue, toute une génération, que cette tranquillité tenait à ça. Et ceux qui se sont installés depuis l'après-guerre dans cette tranquillité n'ont connu que ça alors il y a je me perds dans tout ça, mais il y a un consentement, vraiment il y a un consentement à cet oubli jusqu'à, et c'est pas, je pense pas, une facilité rhétorique, jusqu'à un oubli de l'oubli. Et la difficulté de l'époque, de la période, du temps dans lequel on est, c'est que ces gens-là, cette population-là, ces personnes qui n'ont connu que ça, et celles qui leur succèdent et qui ne veulent connaître que ça, même les trentenaires ne voudraient connaître que ça, même si de tous les côtés on leur signifie qu'ils ne connaîtront pas que ça et que déjà c'est terminé, que la violence du capital est de retour et de retour depuis longtemps, et que là elle se manifeste de manière très claire et de plus en plus claire. Mais quand même, il y a une espèce de volonté de se cacher ça, de volonté de se cacher qu'il va falloir être courageux et que ça va pas être du beurre. Et donc il y a une, alors évidemment Pasolini il va pas avec le dos de la cuillère comme d'habitude, il parle de corruption, c'est une corruption passive en fait, c'est une corruption. Il dirait due au confort, hein, un confort de pensée aussi, un confort de vie. Global, à un mode d'existence, c'est peut-être plus, à la limite, c'est peut-être plus ça qui me soucie et qui m'inquiète, parce que ça va être très dur à bouger, très très dur à bouger. Ça, on peut en faire l'expérience tous les jours en discutant avec des gens autour de nous, ça va être très très dur à bouger. L'oubli que le mode de vie qu'on a, ou le voilà, vient des fondations révolutionnaires, vient d'actes de ce type-là. L'État, lui, il a les outils pour s'en arranger, l'utiliser, l'oublier, le faire revenir mémoriellement ou patrimonialement quand c'est nécessaire. Je pense qu'il est moins à plaindre de ce côté-là. Mais la difficulté vient de, entre guillemets, les humbles corrompus. Vraiment, je crois que là, ça va être déterminant. Mon souci, notre souci, je crois, dans le moment où on est, c'est d'accrocher ce type de réflexion à l'événement. Et l'événement, il est, quand il a lieu, je vois pas comment il pourrait ne pas être historique. L'événement, il est historique. Je crois que ce qui se passe en ce moment, avec et malgré toutes les pulsions, j'allais dire, hein, je vois chez mes bons amis de gauche, c'est un peu ça, les pulsions de dérision, de mise en dérision, hein, de c'est quoi ces bobos Télérama qui vont dans la rue discuter entre eux. J'ai mieux à faire, non, je ne peux pas y aller, j'ai mon yoga. Enfin, je cite des phrases que j'ai entendues autour de moi. Hein, pour qu'on évalue bien la non-compréhension, la distance, l'écart qu'il y a entre ce qui est en train de se passer, parce que voilà, il se passe quelque chose, c'est évident. Quelque chose qu'en tout cas moi je n'ai jamais vécu et j'ai 50 ans passé. Et puis le fait que, j'allais dire quelque chose, ça m'est apparu vraiment clair au début, l'ancien monde n'arrête pas en réalité de l'ancien monde de comme on était avant, hein, comme j'étais il y a encore 6 mois peut-être, l'ancien monde, oulala, ça va être la catastrophe, bon mais il n'y a rien à faire, on est impuissant, enfin bon voilà, l'ancien monde un peu une forme d'impuissance, un peu désolé comme ça, hein, bon. Il cogne encore à la porte, il veut pas, moi j'ai le sentiment que c'est une position, la position d'avant, on va dire, hein, qui veut perdurer, qui veut pas qu'on l'oublie, qui est une position très ancrée chez les gens de ma génération, qui ont 50 ans et plus, où on s'est installé dans une forme de dérision, voire un léger cynisme comme ça par rapport à ce qui peut se passer, parce qu'on pense qu'il ne peut rien se passer sauf le pire, ou sauf encore plus grave, quelque chose d'encore plus grave. On est installé là-dedans, tous. Et en fait, c'est notre position existentielle, je crois presque. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive, parce que, eh ben, si quelque chose d'autre réellement arrive, on sera forcément largué. Et j'ai le sentiment que ces amis que j'ai croisés, ben, ils veulent faire perdurer le mode d'appréhension d'avant, parce que sinon, merde, il va falloir s'y mettre. Et c'est difficile quand on a un certain âge, quand on a une existence qui est à peu près, qui est fragile, mais qui est à peu près en place, on n'a pas, moi je comprends, on n'a pas envie de se bouger.
Dans une liaison encore plus contraire à la nature, dans un mélange presque hallucinant, ces deux espèces de violence se trouvent présentes au cœur d'une autre institution de l'État moderne, la police. Celle-ci est certes une violence employée à des fins légales, mais en mesure en même temps d'étendre elle-même très largement le domaine de ses fins. Si peu de gens sentent le caractère ignoble d'une telle autorité, c'est parce que ces attributions suffisent rarement pour autoriser les plus grossiers empiétements. L'ignominie de la police tient à l'absence ici de toute séparation entre la violence qui fonde le droit et celle qu'il conserve. S'il est requis de la première qu'elle s'affirme comme telle en triomphant, la limitation qui s'impose à la seconde est de ne pas s'assigner de nouvelles fins. La violence policière s'est affranchie de ces deux conditions. Elle est fondatrice de droit, car la fonction caractéristique de ce type de violence n'est pas de promulguer des lois, mais d'émettre toutes sortes de décrets prétendant au statut de droit légitime. Et elle est conservatrice de droit parce qu'elle se met à la disposition des fins qu'on a dites. Il est faux d'affirmer que les fins de la police seraient toujours identiques à celles du reste du droit, ou simplement qu'elles auraient un lien avec elles. Au fond, le droit de la police indique plutôt le point où l'État, soit par impuissance, soit en vertu de la logique interne de tout ordre juridique, ne peut plus garantir, par les moyens de cet ordre, les fins empiriques qu'il désire obtenir à tout prix. Ainsi, pour garantir la sécurité, la police intervient dans des cas innombrables où la situation juridique n'est pas claire. Sans parler de ceux où, sans aucune référence à des fins légales, elle accompagne le citoyen comme une brutale contrainte, ou long d'une vie réglée par les ordonnances. Ou simplement, elle le surveille. À l'opposé du droit qui, dans la décision dont le lieu et le temps sont déterminés, reconnaît une catégorie métaphysique par laquelle il émet prétention à critique, l'analyse de l'institution policière ne révèle rien qui touche à l'essence des choses. Sa violence est aussi informe que sa manifestation fantomatique, insaisissable, mais omniprésente dans la vie des États civilisés.
C'est marrant que ceux qui sont censés ou qu'on voit qui sont censés être extrêmement cadrés, obéissants à des ordres précis, gardiens de l'ordre, enfin voilà, gardiens de la paix, entre guillemets, gardiens de l'ordre, soit dit débordant sans cesse, quoi. Et donc, évidemment, comme je fais, je fais toujours ça parce que j'ai tout le temps ça en tête. Cette question du débordement, elle est renvoyée aux manifestants. Il ne faut pas que ça déborde, il y en a qui débordent, etc. Et quelque chose d'assez intéressant qui est sorti des événements récents, c'est qu'il y a toujours une tension des deux côtés en disant non, le débordement est à l'intérieur, ce n'est pas que ça déborde. Le débordement fait partie de la manifestation, donc ce n'est pas un débordement. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est du côté des manifestants, il y a quelque chose de visiblement de très difficile à soir, à affirmer, qui est sans cesse en discussion, qui est la réappropriation de ces entre guillemets débordements. Alors, se réapproprier ces débordements en disant « ils font partie de la manifestation, ils font partie de l'expression politique », c'est signifier que c'est une violence, c'est une violence légitime au fond, c'est une manière totalement pensée et cadrée d'exprimer une position politique. Et ça, je crois que c'est un point très important, parce que de l'autre côté, on n'arrête pas de vouloir évidemment diviser, de dire ça c'est la bonne manif, ça c'est les pas bons. C'est ceux qui débordent, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas cadrés, etc. Ils ne sont pas dedans. Et c'est pour ça que c'est un point très important. Parce que, je vais faire un petit saut, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est encore une fois un point d'histoire, c'est que tant qu'il y avait la garde nationale, donc je pense jusqu'en 48, il faudrait vérifier, je ne suis pas historienne, les gens étaient armés légalement. Ils avaient des armes, voilà. C'était une garde citoyenne, au fond, une garde populaire, une garde du peuple, pas des milices. Et le désarmement de cette garde nationale, c'est un vrai problème. Et d'abord, c'est quelque chose qu'il faudrait rappeler. Peut-être que toute cette période du 19e, 1830, 1848, c'est quelque chose qu'on voit assez peu à l'école en histoire, dans le secondaire. C'est vraiment quelques points qu'il faudrait rappeler sans cesse, que à un moment, le peuple parisien en tout cas, a été légalement armé, et que face à un pouvoir qui risque de dériver à force de faiblir, il va falloir se poser pas la question de on s'arme à la mode, enfin, tu vois, action directe, etc., on y va, on sort les calaches et on tire dans le tas, pas ça. Mais reposer la question des armes et d'une manière de montrer qu'on a un exercice de la violence pensée, possible et potentiellement vraiment efficace. Et alors, je rappelle juste une chose aussi qui m'a frappée, c'est que il y a un livre qui est sorti à la Fabrique sur le mouvement italien. Où, alors je ne sais pas si c'est vérifié, mais ils avaient des armes. L'idée, c'était de ne pas s'en servir, surtout pas faire comme la police en tirant directement dans la tête des gens, mais simplement de les montrer, et même de faire le signe qu'ils en avaient en levant la main et en faisant le revolver avec la main. Juste en faisant ce signe-là, on en a, donc attention. Et pendant un temps, je pense que ça a tenu. Je pense que c'était une manière de dire « on en a, nous aussi ». Et alors, Je crois qu'ils ont tiré à certains moments, une fois, dans les jambes, là, en tirant bien, par terre, quoi. Hein, pas en visant à blesser ou à tuer quelqu'un, surtout pas. Mais en signifiant qu'on a aussi l'usage des armes. Et ça, c'est... voilà, alors, je crois que c'est toutes ces choses-là, et ça va être très lent, parce qu'il faut réhabituer, pas faire peur aux humbles corrompus, et à tout le monde, et à nous-mêmes, hein, se réhabituer, se dire « oui, c'est possible », il faut utiliser telle chose, il faut réacclimater tel mot. Le mot insurrection avait totalement périmé depuis très longtemps, enclos dans l'histoire, avant qu'il ne ressurgisse à la faveur d'un livre ou de certains événements et qu'il redevienne familier. Il y a tout un vocabulaire à asseoir, à rendre familier à nouveau, à déshistoriciser, à accoutumer. Et la question de, par exemple, de l'usage des armes, pas forcément de l'usage des armes, mais de la présence et de la possibilité des armes, de cette expression-là aussi, de la puissance qu'on a, quoi. Ben, il faut la réacclimater. Bon, alors, évidemment que arme peut être prise au sens métaphorique, hein, puisque j'ai participé à un bouquin, toi aussi tu as des armes, évidemment c'était des armes métaphoriques. Et on est dans ce moment-là, c'est vrai, on est dans un moment où ce sont des armes rhétoriques, où on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, parce que les choses ne sont pas prêtes, pas suffisamment, on n'a pas suffisamment travaillé. Donc on a besoin, en effet, de penser, d'écrire des textes. Il y a des textes qui ont été écrits. Hein. Je voyais quelqu'un qui me disait, bon, 68, c'était une vraie machine à écrire, mais là, il n'y a rien qui sort. Si, il y a des textes qui sortent. Alors, ils sont peut-être encore imparfaits, peut-être trop légers, trop superficiels, mais c'est en train de sortir, ça va sortir et on y travaille. Donc on est dans cette phase-là où il va falloir continuer à écrire, continuer à penser et fourbir ces armes-là, y compris les armes de l'ironie et de l'humour, qui ont été, au fond, assez efficaces, puisque le point de départ de ce qui se passe, c'est, après tout, c'était un film quasi burlesque, hein, ou enfin, en tout cas, il y avait une très forte présence de l'humour. Donc tout ça, c'est très bien dans le moment dans lequel on est, et qui va vraisemblablement se prolonger, je ne sais pas encore combien de temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que... je sens que, étant donné la puissance de ce à quoi on a affaire, il y a un moment où... c'est pas que ça suffira pas, et c'est pas qu'il faut passer de l'un à l'autre. Hein. Il faut continuer, c'est ça la difficulté, c'est que, quelles que soient, j'allais dire, les circonstances, il va falloir continuer à penser, et de plus en plus vite, peut-être. Ça, c'est vraiment difficile, parce que les événements, voilà, se succèdent, eux, sans demander le calendrier des intellectuels ou des gens qui écrivent. On est soumis à un calendrier qui n'est pas le nôtre au fond. C'est pour ça qu'on est bousculé.
Critique de la violence de Walter Benjamin. Fragments et feedback. Une proposition radiophonique d'Alpha Béville sur les ondes de Radio Grenouille dans le cadre du cycle de la guerre et de la paix.